Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je réalise ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business de formation des professionnels de santé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Cela va faire bientôt 6 mois que j'enregistre un podcast par semaine, que je poste sur les réseaux et que j'ai commencé ma thèse. Ça dégage une certaine fierté, je suis content de ne pas avoir lâché. Je crois que j'ai pas raté une semaine depuis 6 mois. C'est une belle étape qui se passe. Rien que le fait de se dire que j'ai pas lâché, c'est déjà quelque chose qui est gagné. Donc je dédicace cet épisode aux 6 premiers mois de ma thèse. Et donc, en espérant que vous avez pu suivre ce que j'ai vécu pendant ces 6 premiers mois. J'ai vraiment l'impression que ça fait 2 ans et demi, 3 ans que j'ai déjà commencé, tellement il s'est passé de choses. Mais bon, il reste aussi beaucoup à faire, donc on va avancer. Mais voilà, c'est une annonce non officielle, ça ne fait pas exactement 6 mois, mais je le vois venir petit à petit. Et bon, dans tous les cas, cette semaine, il ne se passera pas grand-chose. J'ai pas prévu d'événement spécial pour les 6 mois. Je sens qu'une saison 3 commence à se faire attendre parce que le format s'étire, se change et j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de parler de psycho, j'ai envie de parler de mes articles, de mes réflexions parce que au-delà de la discussion de où j'en suis dans les projets, bah, une fois que vous avez compris un petit peu comment je m'y prenais pour écrire un article, j'aimerais bien aller un peu plus dans le contenu. Je pense que quand j'aurai un premier article qui sera publié et que donc j'aurai déjà avancé mes idées et ma manière de concevoir la confiance, je me sentirai mieux de le transmettre dans un podcast parce que je me dirais, bon, je reformule, je complète ce que j'ai déjà écrit quelque part. Alors que là, il y a une partie de moi qui me dit, il ne faut pas que je dévoile mes hypothèses avant d'avoir publié quoi que ce soit, parce que je sais que le vol d'idées existe dans le domaine, même si c'est pas quelque chose qui me fait fondamentalement peur. Je sais pas, je suis un petit peu par automatisme, un peu frileux au fait de parler de psychologie, aussi le fait que je connais pas mes auditeurs, je vous connais pas, je sais pas à quel point vous êtes intéressé par mon sujet de thèse ou plutôt par les à côté, surtout que je pense que j'ai plutôt vendu un podcast sur les à côté. Donc voilà, ma réflexion n'est pas aboutie encore sur est-ce que je parle vraiment de mon sujet ou est-ce que je me sers un peu de ce que je vis dans mon sujet pour transmettre des choses. Si je parle de la confiance dans des nouveaux épisodes hors série, c'est pas clair, donc on va continuer. Je pense que j'ai besoin de vacances, que ça va se réaliser dans pas longtemps. J'attends, comme je l'ai dit, une étape, quelque chose qui se passe, un contrat, un nouveau contrat signé ou une rémunération qui tombe pour me dire « Ok, c'est bon, on est à un stade avancé ». Et je pense que voilà, d'ici quelques semaines, ça va être... on se redonne un petit peu du courage pour finir des projets. Dès qu'il y a un événement cool, je prends des vacances et je reviens avec une saison 3. Ce qui est sûr, c'est que la saison 3 sera filmée parce que je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour mon contenu. Je pense que l'été, en plus, c'est une période où il n'y aura pas beaucoup de gens qui feront du contenu. Moi, je me sens capable de le faire cet été ou en septembre. Dans tous les cas, il y a un sens de la rentrée de l'événement, etc. Donc, c'est un bon créneau pour y réfléchir. Et je pense que ça pourrait me faire passer un cap. Sachant que je vous remercie, je vois une amélioration dans les écoutes là. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû pour le podcast. Alors j'ai déjà mis des tags, donc des mots. Je pense que si on tape ces mots-là dans Spotify, on peut plus me retrouver. Donc j'ai mis des choses pour me retrouver plus facilement. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est parce que je m'améliore à l'oral, parce que moi je le sens en tout cas. Ou si c'est un peu plus freestyle et du coup on a un peu plus de jus de thésard et moins d'un projet bien structuré. Je sais pas. Ou si tout simplement la communication prend son temps, ou si les gens sont en vacances et viennent plus facilement écouter des podcasts. J'en sais rien, mais en tout cas bonjour au nouveau. Je crois toujours, vu les statistiques qui sont toujours pas très précises, que les gens commencent de zéro ou alors arrivent en saison. Donc c'est super. Franchement, ça me fait super rire des gens qui commencent et qui peuvent voir l'évolution au travers les semaines et m'imaginer que ce que je dis aujourd'hui sera entendu dans 6 mois. C'est super intéressant. Donc merci à tout le monde d'être là, que ce soit ceux qui me suivent au jour le jour parce que je vois ceux qui lancent les épisodes dès que je les ouvre, tout comme ceux qui reprennent en route, franchement, ça fait du bien. Comme vous l'entendez, parce que j'ai l'impression qu'il y a autant de choses qui sont transmises qui ne le sont pas dans ce podcast, je vais un peu mieux. J'ai passé une période plutôt mauvaise par rapport à l'estime de soi et je pense que ça a été rattrapé par les bonnes habitudes qui ont été reprises tranquillement. Bien manger, bien dormir et faire du sport. Et le côté social peut-être. Et puis j'ai su me donner du temps au bon moment. Appliquer ce que on m'a dit être la juste qualité, dédicace à Gary, qui m'a transmis cette idée. C'est-à-dire mettre la juste qualité de ses efforts et de la juste qualité dans une tâche par rapport à un temps donné. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être à fond partout, mais que dans le temps qu'on s'est donné ou le moment où on peut le faire, on donne la juste qualité de ce qu'on peut faire. Et donc c'est quelque chose qui m'a été transmis et je trouve ça très intéressant parce que c'est ce que je vis en ce moment. C'est que mes articles ne peuvent pas être parfaits parce que je ne suis pas à plein temps dessus. Mon démarchage sur les réseaux ne peut pas être parfait parce que je ne suis pas à plein temps dessus. Mais c'est intéressant de se dire, ok, là je me suis donné 4 heures pour avancer sur ce truc-là, je donne le mieux que je peux et ce sera très bien. Et depuis que je le vis comme ça me permet de envoyer des brouillons d'articles beaucoup plus tôt que ce que j'aurais fait avant et d'être moins perfectionniste en fait, d'être perfectionniste sur le temps que je me suis donné, c'est-à-dire de faire au mieux sur un temps précis parce que je peux plus me permettre de me dire tant que c'est pas parfait, j'envoie pas tel article ou j'envoie pas telle prestation. Parce qu'il n'y a pas le temps, tout simplement, parce que je ne me donne pas le temps, et je ne me donne pas le temps parce qu'il y a y a un sens de travailler avec les gens, et parce que j'ai tellement de choses à faire qu'il faut que je sois structuré sur la manière d'agir. Donc ça va un petit peu mieux. Sincèrement, que ce soit la baisse de soleil, enfin la montée du soleil, de la chaleur, ou juste que ça commence à faire quelques mois que j'ai pas pris de pause. Je pense que je suis plutôt sur une phase où j'ai besoin de repos, mais voilà, je le prends comme ça. Je me sens pas encore prêt à prendre des vacances, mais je pense que y aller un peu tranquille et se garder en tête ce concept de juste qualité, c'est-à-dire par rapport à ton énergie, au temps que tu t'es alloué pour faire cette tâche et à toutes tes urgences, prends le temps que tu t'es donné et sois à fond. Et si tu t'es donné à fond sur ce temps-là, tout ira bien. C'est donc les préceptes que j'ai appliqués cette semaine sur notamment la réponse au reviewer de l'article 1. C'est mon focus principal pour ces prochaines semaines parce qu'en fait, quand on répond au reviewer, il nous donne un délai et le délai c'est le 12 juillet. J'enregistre le 30 juin, donc j'ai 12 jours encore, sachant que j'ai pas que ça à faire dans les journées. Pour finaliser, lancer au co-auteur, que les co-auteurs valident et soumettre. Autant dire que entre le temps de relation avec les co-auteurs, le temps que je finisse, le temps de relecture, le temps de soumission et surtout le temps alloué à d'autres choses dans ma semaine, on est sur quelque chose d'assez serré. Bon, c'est pas grave, je sais à peu près travailler en pression, mais bon, voilà. Là, c'est mon sujet principal. De toute façon, la logique était de mettre un coup de boost sur la thèse pendant les vacances parce que le côté. Déjà, il y a des choses qui me prennent du temps aussi, c'est relations commerciales et relations avec ceux qui me suivent, mes mentors, enfin, l'incubateur dans lequel je suis associé. C'est pas du tout négatif, mais bon, de fait, ça me prend du temps. Ce qui fait que ça aussi, ça risque d'être plutôt plus calme cet été. Donc, ouais, cet été, ça va être une période thèse. Du coup, j'ai bien avancé sur la réponse au reviewer. Alors, comment ça se passe? Je réfléchis à répondre aux commentaires que j'ai eus sur une feuille Word, enfin, que je me suis mis sur une For You Word, mais en fait, c'était un long mail. Et je suis en relation avec un des auteurs et on s'échange, on adopte une nouvelle stratégie pour présenter les résultats, une nouvelle manière et des nouvelles, une nouvelle histoire à raconter en fait. Et c'est assez périlleux, assez délicat parce que on doit toujours se positionner dans une rédaction éthique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas mentir sur nos résultats et c'est pas le but. Mais il y a vraiment plein de manières de les amener, ces résultats. Et là, grâce au reviewer, en fait, j'ai la chance de me dire que la solution de réponse au reviewer, c'est de revenir vers un article que j'aurais préféré écrire comme ça dès le début. En fait, on a eu beaucoup d'échanges, de difficultés sur certains articles d'analyse d'une relation de confiance. Et au début, je voulais juste mettre en avant en quoi les dimensions de la confiance sont mieux comprises par cet article. Mais bon, les auteurs, globalement, nous ont dit, bah déjà, on ne comprend pas pourquoi vous travaillez sur cette relation spécifique qui est la confiance entre les éleveurs et les vétérinaires. Et puis, on ne comprend pas vraiment ce que ça ajoute, votre article. Et en fait, il s'avère que dans la littérature, il y a trois dimensions de la confiance. Et moi, j'estime qu'il y en a potentiellement une quatrième. Et donc, le vrai sujet important de cet article, c'est en quoi nos analyses peuvent montrer qu'il y a potentiellement une quatrième. Sachant que, comment c'était écrit, on l'avait un peu expliqué rapidement et quasiment pris comme un postulat. Donc, bon, c'est très compliqué. Chaque décision a été prise par l'avis de tout le monde, par les différents angles des journaux, etc. Donc là, je le dis peut-être de manière grossière, mais c'est des décisions qui ont été fines et je sais pourquoi l'article a été pris de cette manière. Mais du coup, ça n'a pas été reçu. Pour une fois, on a un journal qui ne nous a pas rejeté directement, mais qui nous propose de revoir et qui nous dit bah, plutôt travailler sur comment. Enfin, ce point-là, en quoi la quatrième dimension de la confiance est potentiellement importante. Et là, moi, ça m'intéresse parce qu'on revient à quelque chose de très fondamental qui sera peut-être défendu dans ma thèse, où on dit, bah voilà, pour moi, la confiance se mesure pas en trois, mais en quatre dimensions. Et cet article permet de voir qu'est-ce que les éleveurs et les vétérinaires qui sont non pas une relation spécifique, mais une relation proche du terrain et dans lequel la confiance est importante parce que je mets des éléments de contexte. Et vu qu'on a la chance de pouvoir étudier une relation très précise, on va pouvoir voir ce que ça veut dire, ces trois dimensions, mais aussi et surtout la quatrième, pour ces personnes-là. Et donc, peut-être que d'une relation très spécifique et pratique, on va pouvoir avoir des informations un peu plus fondamentales. Et donc, transmis comme ça, vu que c'est pour un journal qui est The Journal of Trust Research, donc le journal de la recherche sur la confiance, eh bien, on arrive sur quelque chose d'un peu plus fondamental, d'un peu moins anecdotique, et où je défends quelque chose de nouveau pour la littérature. Et c'est un petit peu ce que je voulais faire au début, mais voilà, je m'étais dit que c'était pas les bonnes analyses, c'était pas la bonne manière de faire. Mais avec un co-auteur, on se dit, ok, en étant humble sur ce que ça montre, en mettant en avant que cette méthodologie permet de dire ça, mais elle ne permet pas d'affirmer ça, et en restant scientifique, on a un nouvel article qui se dessine, qui est plus proche de ce que je veux faire, c'est-à-dire allier la psychologie pratique et la psychologie fondamentale, et qui défend un sujet qui peut être inscrit dans ma thèse. Voilà pour le petit résumé. Je pensais pas réussir à dire ce que je dis dans un article sans le dire, mais c'est ce genre d'information que j'aimerais vous transmettre. Là, par exemple, je vous ai pas dit le nom de la quatrième dimension. En soi, je m'en fiche, mais je veux juste être clair avec moi-même. Il faut que je me pose 2 minutes et de me dire, est-ce que je donne toutes mes hypothèses? Est-ce que j'explique vraiment dans le fond? Il y a un côté, est-ce que la vulgarisation sera bien? Est-ce que c'est utile ou pas? Mais voilà, là, je suis rentré dans le sujet d'une manière qui me plaisait. Donc pour cet article 1, on passe d'un article en une étude à un article en deux études, avec une première étude où j'ai pris des données qui ont été prises avant, donc c'est possible, hein, c'est légal, justement c'est une autre étude. Et en fait, je raconte même plus l'histoire de ce que j'ai fait avec cet article, c'est-à-dire que moi quand je suis arrivé sur le projet, on m'a donné des résultats d'entretien et de focus group d'éleveurs et de vétérinaires. Et moi, je me suis dit, ah, mais c'est bizarre, je trouve que ça peut être organisé en quatre dimensions. Et ensuite, pour le vérifier, entre autres, parce que ça a été fait aussi dans beaucoup d'autres buts, je me suis dit, Eh ben, on va refaire des entretiens avec des éleveurs vétérinaires et on va leur demander précisément ce qu'ils entendent par chaque dimension. Et donc, eh bien là, cet article maintenant va ressembler à ça. Au début, on devait juste traiter mes données que j'ai récoltées moi. Mais là, on se dit que ce serait mieux de prendre les données des premiers entretiens et de faire deux études. Une où on dit d'abord, on demande qu'est-ce qui est important pour faire confiance pour les personnes. On essaye de les catégoriser, voir si ça rentre dans les quatre dimensions. Et si ça rentre dans les quatre dimensions, ça ne prouve pas qu'il y a quatre dimensions parce on a regardé si ça rentrait. Mais en tout cas, on peut dire que c'est un premier indice qui infirme le fait que ça n'existe pas, qu'il n'y ait pas de quatre dimensions. S'il n'y a pas quatre dimensions, on n'aurait pas réussi à en mettre, sachant que ça a quand même été discuté avec plusieurs comités scientifiques, etc. Et que ce n'est pas que les auteurs qui ont donné leur avis. Donc, on ne se serait pas limité à me dire que cette hypothèse était mauvaise. Mais c'est pas une preuve de la quatrième dimension, c'est un premier indice. Et donc, dans un deuxième article, on demande aux personnes, en donnant les dimensions, qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, on a d'une manière, sans parler de dimension, est-ce que les gens donnent des choses qui font référence à cette dimension? Et à l'inverse, quand on donne cette dimension, pour comprendre un peu mieux ce que ça veut dire pour eux, eh ben, on les laisse parler et on analyse et on regarde quelles thématiques ils abordent. Voilà comment je vais vendre cet article. Ça me semble beaucoup plus clair, c'est une démarche en plus un peu plus fondamentale, mais voilà, du coup ça fait rajouter une étude dans l'article, et puis ça fait rajouter toute une nouvelle articulation et explication de l'article. Donc je m'y colle, je vais travailler un petit peu dessus aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc exceptionnellement je vais reprendre un petit peu à travailler le week-end, ce que j'ai quasiment arrêté depuis quelques semaines, mais là, voilà, les délais sont courts, j'ai des choses à préparer la semaine prochaine, mais au moins vous savez un petit peu ce que je vais faire de ce premier article, et du coup, ça m'a remis pas mal d'intérêt sur cet article que je trouve intéressant et qui défend vraiment une idée fondamentale en se disant, la confiance pour moi se mesure en quatre dimensions, et on est déjà allé voir si les gens donnaient des infos qui peuvent être rangés dans ce que moi j'appelle la quatrième dimension de la confiance. Et ensuite, quand on leur donne la quatrième dimension de la confiance, on peut voir ce qu'ils en ont à redire pour essayer de voir s'il y a bien quelque chose de théoriquement qui réfère un groupe de pensées, un groupe d'opinions, de caractéristiques qu'on attend d'une personne qui peuvent se ranger dans un espèce de catégorisation théorique. Et donc, on est passé d'un article où juste j'expliquais un peu ce qu'était la relation de confiance entre les éleveurs et les vétérinaires, avec à demi-mot un peu de la théorie, un peu de « Ah, regardez, on a une quatrième dimension », mais c'était pas vraiment assumé. Alors que là, on assume la démarche, on pose une hypothèse, on y répond, et on est humble sur les résultats. Et voilà, c'est une solution qui me va bien. Ça se trouve, ça sera pas pris, mais bon, vu comment on avance et vu les retours que j'ai des premiers co-auteurs, je pense que même si je ne suis pas pris dans ce journal, on est quand même sur une version d'un article qui peut être beaucoup, beaucoup mieux appréciée que l'autre. Voilà pour ce qui est des reviewers, de la réponse aux reviewers de l'article numéro 1. Et je suis content enfin de vous expliquer un peu plus en détail plutôt que de vous dire j'ai avancé sur cet article, bonne journée à la semaine prochaine. Voilà pour ce qui est de la thèse, il y a un point que j'aimerais aborder. J'ai un peu plus de temps parce qu'aujourd'hui j'ai plus envie de défendre des points que de faire une structure d'un podcast. C'est une question qu'on m'a posée, que Enguerrand m'a posée. Salut à toi. Et en fait, c'est quand tu dis écrire une thèse, quand est-ce que tu écris ta thèse? En fait, c'est quelque chose qui est très clair pour moi, évidemment, mais qui lui-même m'a dit n'était pas forcément clair. Alors, je ne sais pas s'il y a que des doctorants qui m'écoutent, mais du coup, je vais faire une petite aparté. Quand on dit je fais une thèse, en fait, l'écriture de la thèse, c'est souvent les 6 derniers mois de la thèse, c'est-à-dire au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Donc, écrire une thèse, c'est pas juste écrire un livre et tous les jours, on va écrire une page. Déjà, il y a plusieurs types de thèses. Il y a des thèses sur article et des thèses qui ne sont pas sur article. Quand les thèses sont sur article, c'est généralement pour continuer à être professeur dans le public, à l'université. Et donc, on attend qu'il y ait dans mon laboratoire et dans mon domaine de la psychologie un article publié et un article soumis à un journal. Donc, soumis à un journal, c'est l'état de mon article numéro 1, c'est-à-dire qu'il y a un journal qui a reçu, qui a donné des commentaires, mais l'article n'est pas publié. Il n'est pas officiellement sorti et corrigé comme étant un article scientifique. Et donc publié, c'est, espérons-le, l'étape d'après de mon article, la numéro 1, c'est-à-dire ils m'ont fait des commentaires, je leur renvoie une nouvelle version, ça se trouve, il y a deux, trois échanges, et à la fin, ils disent, OK, c'est bon, l'article nous va, on a plusieurs experts qui l'ont lu, et ils trouvent ça bien. On le publie. Et donc là, c'est publié officiellement. Et là, on peut dire, il y a un article scientifique qui est sorti sur le thème de la quatrième dimension de la confiance potentiellement. Espérons-le dans quelques mois. Je me suis un petit peu perdu, mais voilà. Du coup, quand on écrit une thèse, des fois, on dit, j'écris une thèse sur article. Donc faire des articles, c'est un petit peu écrire sa thèse, mais pas vraiment. Pourquoi on ne l'écrit pas dès le début? Déjà, il y a un énorme temps de réflexion, recherche bibliographique et de définition, affinage du sujet en fait. Parce que quand on se pose une question, la meilleure manière de se poser une question, c'est après y avoir répondu en fait. Parce que on ne peut pas se rendre compte des concepts qu'on mobilise et de la profondeur de la question tant qu'on n'a pas été à fond dans notre sujet. J'espère que c'est expliqué logiquement, mais étant donné qu'on est sur des connaissances qui sont fines, ma thèse, c'est pas qu'est-ce que la confiance, c'est est-ce que la confiance est liée à ce truc-là, ou est-ce que la confiance vue comme ça peut mieux expliquer telle situation? Mais en fait, si je dis est-ce que la confiance vue comme ça, ou définie comme ça, peut expliquer une meilleure situation, bah ça se trouve, mon postulat de vue comme ça, bah, je vais finir par me dire, mais non, mais en fait, voir la confiance comme ça a pas de sens, donc il faut changer. Ou se dire, bah là, clairement, ça, je peux le dire. Mon sujet de thèse initialement, c'est de se dire. Alors, je réfléchis parce qu'en fait, je peux partir sur un monologue incompréhensible du sujet de ma thèse pendant longtemps. Donc, il faut que je fasse le niveau de vulgarisation nécessaire pour pas passer 20 minutes dessus. En gros, moi, ma thèse, c'était de me dire, il y a plusieurs niveaux d'information pour faire confiance. On peut faire confiance à quelqu'un pour ce qu'on sait de lui-même, mais ce qu'on sait du groupe social auquel il est associé, ce qu'on sait de l'institution auquel il est associé. Donc en gros, il y a plusieurs niveaux de plusieurs types d'informations sur lesquelles on se base pour faire confiance. Et donc, le but, c'était de voir quel était le niveau le plus important, le plus pertinent, quand on fait confiance à son professionnel de santé. Sauf que ce que je suis en train de me dire aujourd'hui, c'est que si on mobilise d'autres types de théories, eh ben peut-être la question même de se dire quel est est-ce qu'il y a un ou plusieurs et quel est le type d'information le plus important, bah c'est peut-être pas la meilleure question parce qu'en fait c'est plutôt selon le contexte quel est les meilleurs types d'informations et est-ce que il vaut mieux des informations qui soient adaptées au contexte plutôt que la meilleure information. Enfin voilà. J'avoue que c'est difficile, je pense que ça va pas être très compréhensible, mais j'expliquerai mon sujet de thèse peut-être dans un podcast. Là, il faudrait que je mobilise des champs théoriques que je vulgarise et je risque de vous perdre et surtout de vous prendre 20 minutes de plus. Donc, juste pour défendre un point, on n'écrit pas une thèse dès le début parce que en fait, nos questionnements changent. Et donc c'est une fois qu'on a compris, une fois qu'on a répondu à notre question, qu'on peut rédiger la thèse. Et pour répondre à la question, il faut plusieurs années. Donc oui, moi j'ai plusieurs années de recherche dans la confiance, mais j'ai pas plusieurs années de construction d'un projet de thèse et d'une question à laquelle je vais répondre au travers d'un plan et sur le thème précis de la confiance en santé et envers les professionnels de santé. Donc faire une thèse, c'est d'abord se poser une question, y répondre au travers d'une lecture théorique, mais aussi et surtout d'expérimentation. Et ensuite, une fois qu'on a une bonne idée de comment y répondre, et ben là, on écrit de manière longue et quasi exhaustive la question, comment on y a répondu, et la réponse qu'on peut y apporter. Et donc c'est pour ça que quand on dit je fais une thèse, et en fait, on réfléchit à notre sujet, on monte des expériences, ce qui prend du temps, on analyse les données, on discute, on change de point de vue, on redéfinit la question, on se dit mince, mais mon expérience 1 répondait très bien à ma question 1, mais maintenant je trouve que ma question 1 n'est pas très et moins pertinente, du coup, comment faire en sorte que mon expérience 1 aille à ma question 2? Et voilà, c'est tout ça le fait de faire une thèse et le fait de mettre du temps à faire une thèse. Voilà pour le petit point, ce que ça veut dire faire une thèse et écrire une thèse. Donc je n'écris pas ma thèse, j'écris des articles et je réfléchis à la structure et à la grande question à laquelle j'essaie de répondre. Et une fois que j'aurai des éléments de réponse bien plus concrets, j'écrirai une thèse. Et généralement, en fait, ça se fait dans les 6 derniers mois de la thèse, une fois que tout le monde a validé que, en effet, la question est bonne et la réponse est pas déconnante. Voilà pour ce qui est de la rubrique thèse, et donc pour la semaine prochaine, tout simplement, on va continuer ce travail avec les co-auteurs avec lesquels je suis pour finaliser cette réponse au reviewer. Et cette semaine, c'est obligatoire, hein, c'est un semi-objectif parce que ça doit être fait cette semaine. Il faut que j'ai fini ma réponse au reviewer, en tout cas ce nouvel article pour l'envoyer au co-auteur et le soumettre. Enfin, pour la thèse, ce qu'il faut aussi, c'est valider le temps de rendez-vous du CSI, comité de suivi individuel de ma thèse, donc le comité qui va justement m'aider à comprendre mes articles en tant que projet, voir mon évolution sur la question que je me suis posée, et puis faire le point de manière générale sur où j'en suis sur ce projet de thèse. Là, il faut vraiment que je mette en place ça parce que c'est obligatoire et je suis en retard, mais je me fais un petit peu avoir par toutes les urgences académiques et professionnelles. Et vu que ça, je le vois, c'est académique, mais je le vois plus comme quelque chose d'administratif, je le mets en pas très urgent, pas très important. Mais étant donné que c'est obligatoire, ça devient urgent et important. Et en plus, j'ai un peu mieux compris l'importance que ça avait dans un parcours, là où je m'en fichais il y a encore quelques jours, quelques heures. Je me rends compte que ça peut m'aider à remettre un point sur où j'en suis dans ma thèse et du coup voir non pas la thèse comme une suite d'articles, mais vraiment comme un projet, une question à laquelle on répond et on s'améliore et dans le questionnement et dans la réponse. Et donc, il y a des gens qui peuvent m'aider à faire le point et à regarder où j'en suis. Donc, il faut le prendre en compte et profiter de ce rendez-vous. Voilà pour ce qui est de la rubrique thèse pour cette semaine. Ensuite, pour l'entreprise, j'ai pas grand-chose à dire, je crois, parce que je suis dans une période de relance de mes contacts. J'ai eu la chance d'avoir fini mes prestations là où elles en étaient. Et donc, je suis plutôt dans l'attente de clients par les organismes de formation et de relance des contacts que j'ai pour faire des choses. J'ai des cours qui vont se faire en début d'année prochaine, donc je sais que j'aurai des petites vacations qui vont être faites. Et puis j'ai des gens qui sont venus vers moi où je suis en discussion. Au-delà de ça, donc voilà, ça c'est plutôt ma vie, mais ce que j'aimerais vous transmettre, c'est j'ai adopté une stratégie pour quelqu'un que je trouve intéressante. C'est quelqu'un qui m'a demandé, donc j'essaye de confidentialiser un petit peu la relation. C'est quelqu'un qui m'a globalement demandé de lui envoyer un peu de littérature sur un sujet. Et au début, qui m'a dit, ça peut être une conférence, ça peut être un bouquin, des suggestions, etc. Et j'ai décidé de prendre du temps pour aller chercher des articles précisément sur son domaine, qui sont mes thèmes de recherche, mais pas exactement sur la question qui me posait. Au lieu de lui envoyer les articles, je les ai lus, synthétisés. J'ai fait un petit document d'une, je sais plus, 5-10 pages, mais on s'en fiche de la quantité. Justement, là, il fallait être synthétique, intéressant. Et donc, je lui ai fourni un résumé en plusieurs pages et les articles associés, avec une introduction et une synthèse. Et donc, c'est pas ce qu'il m'a demandé, mais je l'ai envoyé et j'ai eu une réponse cette semaine. Ça a été très bien apprécié. Et la personne a envie qu'on continue de travailler. Donc ça, c'est ce que j'estime donner un échantillon de mon travail, on va dire. Maintenant, et de donner envie de travailler avec soi. Et donc, je pense que, et parce que je l'ai entendu, je pense qu'il faut savoir travailler gratuitement au début. Pas travailler gratuitement, mais donner un petit peu gratuitement au début. Je pense que n'importe qui fait du conseil, on commence à faire quelques conseils ou on offre entre guillemets la première heure ou des choses comme ça. Mais je pense que si je lui avais dit tout de suite, ça c'est une prestation et il faut me payer, je pense que ça aurait pas intéressé la personne. Je recommande de faire ce genre de choses, de pas avoir peur de un petit peu donner goût à son travail et prendre faire attention à donner du bon travail dès le début pour que les gens se rendent compte qu'on est compétent et qu'ils aient envie de travailler avec nous. Maintenant, la problématique, c'est que je ne suis pas à l'aise au fait de demander de l'argent maintenant que c'est fait, parce que, et donc c'est bien, vous avez le positif et le négatif. Le positif, c'est que ça donne envie de travailler avec soi, mais le négatif, c'est que si c'est pas clair, la personne peut croire qu'on sera gratuit tout le temps. Et moi, étant donné que j'ai une posture un petit peu compliquée, c'est-à-dire que je suis à la fois étudiant, à la fois un petit peu prof et à la fois entrepreneur, quand on me demande quelque chose, on ne sait pas si je le fais de ma casquette étudiant et donc plutôt bénévolement, ma casquette prof et donc plutôt bénévolement parce que je reste dans le public, ou ma casquette entrepreneur et pas bénévolement. Et donc là, voilà, je suis dans l'entre-deux où il faut que je réponde à cette personne qui veut continuer de travailler avec moi, où je me rende compte quand est-ce que ma part gratuite s'arrête, quoi. Là, on me demande de faire une visio, je m'en fiche, je peux faire une visio d'1 heure, ça m'intéresse, ça me fait rencontrer du monde, je peux le faire gratuitement. Mais j'ai pas envie de mettre le doigt dans un engrenage dans lequel les gens pensent que tout ce que je fais est gratuit. Et donc, il faut que je me dise, que je définisse moi-même, en fait, qu'est-ce que je suis capable de fournir gratuitement de manière payante, et que j'ai tout simplement le courage d'adopter une démarche payante en disant, bah voilà, jusque-là, ça me demandait pas beaucoup de temps, donc je vous ai fait ce que vous m'avez demandé, mais là, si vous voulez aller plus loin, ce sera dans le cadre d'une prestation. Voilà, en le disant, je me rends compte que ça peut être bien dit avec tact, mais voilà, devant le fait accompli, ça fait pas partie des choses avec lesquelles je suis à l'aise. Et donc là, cette semaine, il va falloir savoir dire ça et savoir poser le cadre. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que c'est bien de faire ça, mais qu'il faut poser le cadre le plus tôt possible pour pas se faire avoir dans un engrenage où on fait les choses gratuitement. Et je pense que ça concerne beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont envie de bien faire et qui sont très intéressés par leur sujet et qui se disent, il y a quand même du sens à faire les choses gratuitement au début parce que on rencontre du monde, parce qu'on donne goût, etc. Mais je pense que très vite, il faut savoir ce qu'on a à vendre et devoir le dire. Donc disons que je sais ce qu'il y a à faire, mais que bah, voilà, je suis un petit peu, j'allais dire effrayé, mais c'est voilà, un petit peu stressé d'adopter cette vraie stratégie commerciale. Mais je vais le faire, mais voilà, c'était pour partager cette petite expérience. Pour la semaine prochaine, j'ai plusieurs choses à faire du côté entreprise, qui sont globalement plusieurs rendez-vous pro. J'ai plusieurs rendez-vous avec des coachs pour le projet de l'association La Vie Kintsugi, qui coachent des patients qui ont un cancer. Parce que j'ai envie d'affiner ma compréhension du sujet. Mon but pour l'instant, c'est de cadrer et d'essayer de définir à quoi va ressembler l'étude, mais déjà le sujet, quelles sont les thématiques, les variables qu'on va prendre en compte. Et donc, je veux avoir l'avis des coachs sur ce sujet. Et voilà, d'autres rendez-vous qui vont se passer dans la semaine, dont c'est pas un rendez-vous, mais il faut que je reprenne contact avec la personne à qui j'ai envoyé un résumé synthétique des lectures sur un sujet. Voilà, ça va pas prendre. Si finalement ça va prendre du temps, parce qu'il y a toujours de la préparation, de l'organisation, du fait que ça peut couper dans un élan de travail, d'autres choses. Et j'ai quand même peut-être 4 rendez-vous à faire, donc 4 ou 5 dans la semaine. C'est beaucoup pour moi, hein, surtout que quand je fais pas ça, bah là en ce moment je dois travailler sur la thèse, et donc ça coupe clairement un élan de travail, hein, d'avoir un rendez-vous en pleine journée. C'est pour ça que je les mets en fin d'après-midi, comme ça je sais que le matin je peux faire 3-4 heures à fond sur la thèse, et 3-4 heures à fond, ça peut être très utile. Et donc, semaine prochaine, thèse, mais ça c'est pour l'autre brique, pour l'entreprise, les rendez-vous pro, mais j'ai aussi la participation à un nouveau concours. Qui s'appelle le prix Pépite. Donc Pépite, je l'ai déjà dit, c'est une structure qui peut accompagner les étudiants qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Normalement, il y a un Pépite par région minimum, et ils font un prix dans la région pour voir si les projets des gens, etc. Et donc, il faut que je me prépare, que je prépare mon diaporama et que je me teste à faire à l'oral. Et que voilà, j'aille à ce concours et que j'espère gagner, je vous le dirai la semaine prochaine. Voilà ce qu'il y a à faire cette semaine qui arrive pour l'entreprise. Pour la rubrique développement personnel, enfin, Je vais être rapide parce que, sincèrement, je trouve que je cherche mes mots. Je suis pas très efficace aujourd'hui. C'est peut-être pas la meilleure heure à laquelle j'ai enregistré. J'essayais de le faire le matin généralement. Là, on est plutôt en début d'après-midi après digestion. Donc voilà, je me trouve pas très efficace. Je vais pas m'étendre. Mais donc il y a deux points que j'aimerais défendre. Le premier, c'est que je disais la semaine dernière que les habitudes sont un château de cartes. Et qu'il faut recommencer par la base. Je suis d'accord. On reprend bien manger, faire du sport et faire du sommeil. Et ça y est, on remonte la pente tout doucement. Je maintiens, commençons par la base. Et tant que la base n'est pas propre, on ne rajoute pas de nouvelles habitudes. Donc on va continuer. Pas grand-chose à dire, à part que, en effet, ça marche. Et que il y a juste une séance que j'ai pas faite, mais je le sais pourquoi. C'était pour de l'organisation, parce que j'ai un décalage de plusieurs semaines et que je voulais reprendre le rythme sans fatiguer le groupe musculaire. Mais bon, c'est un détail. Au-delà de ça, je suis toujours motivé à y aller. Je prends du plaisir à aller à la salle de sport. Et voilà pour le sommeil et l'alimentation. Je me laisse un peu aller tout en ayant des règles générales. Pour l'instant, ça va. On verra où ça me mènera. Mais bon, peut-être que les vacances, la chaleur et le soleil me mènent à me laisser un petit peu aller sur les éléments des habitudes. Et c'est peut-être pas plus mal. Ensuite, pour le développement personnel, il y a une idée me reste en tête depuis quelques jours, quelques semaines. C'est que il y a une limite dans le développement personnel qui est que quand on essaye de s'améliorer, les défauts qu'on a, qui sont pleinement des défauts, finissent par partir. C'est-à-dire que je sais pas, quand on n'est pas ponctuel, on travaille sur soi, on finit par être ponctuel. Parce que c'est un défaut qui est, dans de très rares occasions, une qualité. Et en fait, je me rends compte que depuis des années maintenant, depuis la fac, en fait, quasiment entre 5 et 10 ans, j'essaye de m'améliorer, j'essaye d'enlever mes défauts qui sont des défauts. Et ces derniers temps, j'ai le sentiment il me reste un défaut qui est globalement un défaut, deux, qui sont. Non, un, on va dire. Un défaut qui reste totalement un défaut, c'est plutôt le côté social. De pas être très extraverti, mais bon, je pense que j'ai pas beaucoup de degrés à gagner dessus parce que je suis loin d'être associable. Mais voilà, je pense que c'est un élément trop stressant dans ma vie encore aujourd'hui et qu'il faut travailler dessus. Et qu'il n'y a pas énormément de points positifs, à part que être le plus extraverti de la bande, c'est jamais le plus. Les gens n'aiment pas forcément les gens extravertis, mais moi c'est surtout ma manière de me sentir, quoi. J'aimerais bien me sentir un peu plus déstressé à l'idée de voir des personnes et surtout des nouvelles personnes. Donc ça c'est un point d'amélioration clair, mais ce qui me reste comme défaut, en fait, mes défauts, j'ai les qualités de mes défauts, et je vous transmets ça parce que je pense que quand on arrive à un point où on essaie de s'améliorer, j'ai l'impression que l'étape la plus dure que je traverse en ce moment, c'est de se dire, d'accord, les trucs qui sont clairs, je sais pas, je voulais savoir danser, je sais pas danser, c'est dur pour moi, et je sais danser. Bon, le fait est que je sais pas danser, mais c'est pas quelque chose d'important, et je pense que j'apprendrai à danser un jour dans ma vie. Mais pareil, je suis pas quelqu'un de ponctuel, bon, on va travailler, on finit par être quelqu'un de ponctuel. Mais que fait-on avec les défauts qui sont aussi des qualités? C'est-à-dire, par exemple, le fait d'être dur avec soi-même, c'est quelque chose qui m'a rendu bon dans beaucoup de domaines, mais c'est tout aussi quelque chose qui me fait mal et qui me détruit. Donc c'est à la fois un moteur pour avancer et à la fois quelque chose qui fait mal vivre au quotidien. Et ça, je trouve que c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes à enlever. Et que donc, là, j'ai pas de solution. Mais en tout cas, je dis, peut-être, si vous voulez vous améliorer, commencez par combattre les défauts qui sont purement des défauts, dans 90% des situations. Et je vous dis aussi, revenez vers moi si vous avez des solutions sur les défauts qui sont aussi des qualités. Je veux dire, être un peu têtu, enfin moi pour mon cas personnel, être un peu têtu, hargneux, bah en fait c'est ce qui fait que je travaille bien, c'est ce qui fait que je suis un apprenti chercheur qui avance bien parce que j'essaye d'avoir du bon sens et tant qu'on me contredit pas mon bon sens, je continue dans la lignée. Je suis travailleur, mais parfois trop, et donc voilà, être hargneux, je sais pas, dans la vie de tous les jours, bah, des fois, ça fatigue, ça peut limiter, gâcher des relations, de pas savoir lâcher le morceau. Être travailleur, bah, en fait, trop, ça devient à rendre tous les aspects de sa vie comme étant compétitif et ça fatigue autant le mental que le physique. Et donc voilà, en fait, je suis un petit peu en boucle ces dernières semaines parce que je vois que mes défauts sont mes qualités et j'ai pas de solution en fait parce que ce qui me rend meilleur m'affaiblit aussi. Et c'est peut-être, c'est des jolies phrases, mais je le vis vraiment au quotidien. Notamment le fait d'être dur avec soi-même, c'est vraiment ce qui me permet de m'améliorer et de faire autant de choses. Et je me rends compte des 6 mois qui se sont passés où je sais même plus c'est quoi ma zone de confort, tellement j'en suis sorti. Et que j'ai la tête dans le guidon. Pareil, avoir la tête dans le guidon, est-ce que c'est pas la meilleure des qualités quand on doit développer un projet? Mais est-ce que c'est pas le pire défaut quand on doit se sentir bien et essayer d'apprécier sa vie? Voilà, je suis bloqué dans ça, je voulais vous le transmettre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se retrouvent dans ces thématiques-là, mais je trouve que c'est le plus dur dans le développement personnel. Et si vous avez des tips, je suis preneur. J'essaierai de vous transmettre. Sincèrement, je vais peut-être être suivi. Je vais peut-être aller voir un psy pour parler de ces thématiques parce que j'ai largement compris comment m'améliorer moi-même. Justement, c'est une des qualités qui est aussi un défaut, c'est la volonté de m'améliorer et être assez bon pour m'améliorer. Mais bon, si on veut tout le temps s'améliorer, on a une pression à la compétence et on a une modification de son identité constante qui peut être dévalorisante. Et voilà, là, je suis totalement bloqué parce que j'ai des outils, j'ai des armes et je sais autant bien les manier pour combattre avec les autres que pour combattre avec moi-même. Voilà, je vous dirai si j'ai des réponses à ce sujet. N'hésitez pas à revenir vers moi. Et sur ce, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous passerez une bonne semaine également. Et à bientôt.